J'ai peut-être des scrupules d'historien de la philosophie à faire des rapprochements aussi distants.
Ah oui.
Mais peut-être que ça peut faire du sens. Hein, je sais pas.
Je suis artiste, pas philosophe.
Mais non, c'est que non. C'est que de toute façon, le perspectivisme, que ce soit chez Leibniz, chez Nietzsche, enfin chez Leibniz, c'est compliqué parce que c'est Deleuze qui dit ça en fait.
Il faut fabuler quand même. Leibniz, c'est Donnarumma et avec le Leibniz.
Oui. Mais Leibniz, il ne sait pas qu'il fabule en fait. Hein, l'harmonie, le meilleur des mondes, tout ça, pour lui, c'est une croyance. Hein, c'est sérieux quoi. Nous, on a du mal à y croire. Ça nous paraît fou. Mais c'était une croyance. Enfin, voilà, lui, il fabule complètement. Mais mais après tout, c'est possible finalement que Dieu ait choisi le meilleur des mondes. Enfin, bon, après, on verra. Mais c'est vrai que ça paraît difficilement croyable. Mais dans la mesure où la perspective chez Leibniz est dans le corps, ça a un sens quand même qui c'est pas notre corps. Enfin, c'est pas le corps tel qu'on le conçoit nous, en fait. Hein. C'est le corps de Leibniz, c'est très compliqué. Enfin, il y a la monade, c'est un petit monde dans lequel justement on ne sort pas. Duquel on ne sort pas, il n'y a ni porte ni fenêtre, et dans lequel le monde est inclus. C'est la théorie de l'inhérence des prédicats, c'est-à-dire que notre vie entière, Dieu la voit du début jusqu'à la fin, et quelque part l'univers entier, Leibniz parle des traces, dès qu'il se passe quelque chose quelque part, mon univers se transforme. Donc quand il parle de corps, il parle d'un corps qui quand même est tendu à l'univers entier. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça ressemble à ce que dira Haraway, mais ce n'est pas du tout un corps, enfin ce n'est pas un dualisme, Leibniz, du moins ce n'est pas un dualisme comme Descartes, quoi. Il n'y a pas deux choses dans le monde, des corps et des esprits, et nous on est les esprits, c'est super. Non, chez Leibniz c'est beaucoup plus compliqué. Il y a le corps et le monde sont dans une relation extrêmement étroite, inclusive. Parce qu'en fait on dit oui, on est enfermé dans la monade, mais en fait non, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Donc on est directement dans le monde chez Leibniz. Mais on est dans le monde vu depuis un point de vue, qui est notre substance. Qui est dans le plan de Dieu, si tu veux. Dieu, c'est une sorte de méga ordinateur qui calcule à chaque instant toutes les interactions pour que tout soit pour le mieux. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on puisse, avec cet arrière-fond théologique, cette fabulation théologique de l'harmonie, etc., de l'harmonie préétablie, je ne suis pas sûr que ça puisse être associable. Je ne connais pas assez bien Donna Haraway sur cette question de la peau. Mais j'aurais des scrupules, moi, personnellement, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être un côté bon élève, j'en sais rien. Après, si ça produit du sens, pourquoi pas, hein. C'est juste que je ne connais pas assez bien Haraway, il faudrait qu'on m'explique.
Mais Viveiro de Castro et Donna Haraway, ils sont contemporains.
Oui, tout à fait.
Pas pour Viveiro de Castro, mais pour les Amérindiens, la perspective... Elle a une relation avec le corps. C'est pourquoi il cite
en fait, Deleuze
pour Leibniz. Non. Mais je pense que la question est qu'est-ce qui fait un corps?
Oui, non, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait un corps? Un corps est la même chose qu'un individu, qu'un jaguar ou une personne. Ou le corps peut être un réseau, un accouplement.
Moi, j'ai envie de dire.
Quelle est la différence entre les perspectives créées
dans les deux cas?
Créées dans les deux cas. Parce que quand Viveiro de Castro il cite Leibniz, il se réfère à.
Il cite Deleuze.
Il cite Deleuze parlant de Leibniz.
Oui, c'est déjà différent. Désolé.
Tudo bem. D'accord. La question est que pour les Amérindiens, le corps est comme un vêtement. C'est ça.
Oui, tout à fait.
Et quand ce vêtement est plus grand que seulement un corps d'un individu.
C'est très leibnizien pour le coup. C'est aussi très leibnizien quelque part, puisque notre monade.
Non,
je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on a tendance, moi c'est un peu le
la question est la différence entre corps. Comment un corps se fabrique? Qu'est-ce qu'un corps? C'est la différence entre la fabrication des corps change la définition de perspective.
Oui, non, mais c'est une question ça. C'est une observation plutôt, dans le sens tu décris comment Viveiro de Castro interprète les idées des Amérindiens. C'est-à-dire que là aussi, il y a une distance quand même, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
C'est ça, donc il se sert de ses connaissances philosophiques pour décrire tout le processus de fabrication, de composition du monde et des corps chez les Amérindiens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la perspective l'a aidé à faire ça. Tu vois, et effectivement, je pense que ce n'est pas étranger à ce qu'a fait Leibniz, ce n'est pas étranger à ce qu'a fait Deleuze, à ce qu'a fait Nietzsche. Mais bon, après, moi, j'aurais des réserves dans la mesure où Vivers de Castro traduit, en quelque sorte, les Amérindiens. Les Amérindiens ne parlent surtout pas de perspective. Je ne crois pas. Du moins, ils ne disent pas du tout ce mot avec son poids et son histoire. Vivers de Castro parle dans un langage qui est le nôtre. Et il nous fait comprendre quelque chose à partir de notre culture occidentale. Et c'est là que moi j'introduirais quand même de la distance. Bien sûr.
Ou avec.
Ah, alors après, c'est un débat.
C'est différent.
Mais moi, je veux dire, plus je m'immerge dans cette histoire de la perspective, plus je me rends compte qu'il y a quand même, chez Vivers de Castro, il y a un petit peu une mise en scène. C'est-à-dire que, quelque part, il hésite entre deux interprétations. C'est-à-dire, soit on fait de l'anthropologie américaine. Dans ce cas-là, on parle de certains peuples, dans certaines zones de l'Amazonie, qui ne fonctionnent pas pour tous. Le perspectivisme, ce n'est pas une idée générale. C'est certains peuples qu'il a étudiés, qu'il connaît extrêmement bien, mais qui n'est pas une sorte de philosophie par défaut des Amérindiens. Des Amérindiens, déjà, parler même de perspectivisme amérindien, c'est très compliqué. Mais par contre, s'il le spécialisait, s'il disait le perspectivisme des Araouété, bon... ça devient aussi compliqué parce que quelque part on voit plus l'intérêt d'en faire.
Non, attends,
je termine. Et d'un côté il y a ça, il y a cet aspect, disons, soit on le spécialise, on en fait un domaine d'anthropologie qui approfondit de manière brillante Lévi-Strauss et qui, d'une autre façon que Descola, va introduire l'animisme, va restaurer l'animisme d'une certaine façon. Hein. Descola parle de restauration, puisque l'animisme c'est quand même une insulte à la base. C'est-à-dire, c'est regarder ces peuples, ils croient que les animaux, ils ont des âmes, ils sont débiles, etc. Enfin, c'est vraiment une vision coloniale. Donc là, il y a une restauration, une dignité philosophique qui est accordée à la pensée amérindienne, qui est un geste politique. Ça, c'est très bien. Et il y a un deuxième geste de Vivers de Castro, qui est l'extrapolation philosophique par rapport aux questions qui sont actuelles de l'anthropocène et de ces choses-là. Et là, il y a un texte très très beau qui s'appelle, que Emily H. a publié d'ailleurs dans son recueil, qui s'appelle L'arrêt de monde, dans lequel, à partir des Amérindiens, relativise en quelque sorte nos manières de concevoir les fins du monde en montrant qu'il y aurait peut-être une conception de l'humanité différente de celle auxquelles nous sommes habitués, qui serait ce que Pierre Montebello appelle, dans la tradition métaphysique, de l'univocité de l'être, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une sorte d'humanité immanente à toute forme de tout être, que l'humanité que nous sommes n'est au fond qu'une sorte d'usurpation. Nous pensons être les seuls humains, alors qu'en fait l'humanité au sens propre, c'est quelque chose qui est immanent au monde. Et à partir de là, on comprend le perspectivisme, puisque effectivement, les points de vue peuvent se déplacer. Chaque animal se voit comme un humain et se dépend de la relation avec laquelle que nous entretenons avec lui. Mais dans ce cas-là, il ne fait plus de l'anthropologie, il fait de la métaphysique. Et cette idée d'humanité immanente, elle est très intéressante. Je pense que c'est un vrai apport, mais elle a aussi une histoire occidentale, en fait. Elle a une histoire qui est liée justement à la Renaissance, aux cosmologies hermétiques de la Renaissance. Vous la retrouvez dans la relation entre microcosme et macrocosme chez Giordano Bruno, chez Marcel Fissin, le néoplatonisme. Et quelque part, les Amérindiens, là-dedans, on se demande bien pourquoi on a besoin d'eux. Et c'est-à-dire que Vivers de Castro, il est constamment entre cette autorisation qu'il se donne, qui est tout à fait légitime, de parler des peuples amérindiens en leur restaurant une dignité politique à laquelle ils ont été, de laquelle ils sont privés. Mais on se demande bien pourquoi, après tout, les Amérindiens ne nous le disent pas directement. Pourquoi ils ont besoin de Vivers de Castro, après tout ? On pourrait être critique jusque-là, puisque c'est ce que fait par exemple Manuela Carneiro da Cunha, en disant « Oui, bon, c'est bien gentil, mais les Amérindiens n'ont pas besoin d'anthropologues qui fassent des conférences à Paris. Ils ont besoin de droits, ils ont besoin d'une politique réelle, ils n'ont pas besoin de livres. » Bon, c'est une critique un peu violente, mais après tout, elle peut se justifier. Mais Vivers de Castro ne fait pas que ça. Il propose aussi une relecture de l'histoire occidentale, ce qu'il appelle une expérimentation avec notre propre pensée. C'est-à-dire que c'est le contact avec cette autre manière de composer le monde complètement, disons, exotique, puisque c'est ça, il joue aussi sur le registre de l'exotisme, pour justement contre-exotiser et nous obliger à avoir un regard, ce que Michel Foucault appelait une ontologie critique de nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de reprendre, à partir de ce qui nous est le plus familier, convertir notre regard pour perdre cette familiarité apparente avec ce qui est censé être nôtre. Et c'est exactement ce que moi je propose de faire avec la perspective. La perspective est ce qui est le plus nôtre, c'est notre truc d'occidentaux. C'est nous qui l'avons inventé en Italie, dans les Flandres, etc. Les musulmans n'y s'y sont jamais intéressés, alors qu'ils avaient une tradition picturale extraordinaire. Et pourtant, là, on a quelqu'un qui nous dit « mais en fait, vous n'avez rien compris la perspective, il s'agit d'autre chose. Il faut relire toute l'histoire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais malheureusement, je n'ai pas pu approfondir. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même Vivores de Castro, il ne faut pas non plus le prendre pour une espèce de représentant immédiat des Amérindiens. Il est aussi un traducteur, un passeur qui répond à des objectifs. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas non plus tout à fait retirer toute distance critique, puisqu'il s'agit d'un langage qui est le nôtre. Et c'est normal, après tout. Il y a ce contact, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas...
Ce ne sont pas seulement les Arawetés, Malewari, oui. Les Kayapó, les Akewara, les Akewara...
Et les Sibériens, et ce que tu disais tout à l'heure, et toute la tradition...
Non, mais c'est parce que vous avez dit un peuple, ce qu'il a étudié, et là, ce n'est pas vrai.
Mais c'est celui qui l'a étudié. Je veux dire par là que si on est vraiment, si tu veux, dans la version positiviste, hein, si on veut être positiviste, on va dire, Vivores de Castro parle de ce qu'il connaît. Il parle des Arawetés. Et après, grâce à ses connaissances anthropologiques, il arrive à construire une pensée.
Quelle est la différence entre...
Je peux traduire, sinon elle parle en portugais, je traduis, c'est pas grave.
Oui, c'est très intéressant ce débat. Malheureusement, on n'a pas trop le temps de le poursuivre. Ma question est tout à fait décalée. Cette multiplication, cette infinitisation des perspectives pour essayer de rendre compte d'un monde vrai qui n'existe pas, mais qui est chaque fois créé par chacun de ces points d'émission, qui est évidemment formidable et inatteignable. Mais il y a un présupposé derrière, me semble-t-il, qui est celui de la vision, du regard, surtout compte tenu de l'histoire occidentale, de la perspective. Et ma question, c'est quid de l'écoute? Tout simplement. Là, plus de perspective. Enfin, il y a encore des perspectives auditives, bien entendu, mais ça change un peu la question. Et j'aimerais bien avoir ta réaction, parce que j'étais très sensible et très content de ton paysage de la perspective dans l'histoire et chez Nietzsche. Voilà. Merci. C'est tout.
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps du tout et je n'aurais pas abordé de toute manière. C'est la question des limites du perspectivisme au sens conceptuel du terme. C'est-à-dire, bah, effectivement, on reste dans une forme d'oculocentrisme. Alors, l'œil, hein, c'est le tropisme occidental, Aristote, la connaissance, tous les hommes cherchent la connaissance, et la vision est la connaissance la plus agréable que nous avons. Or, si on prend un point de vue, disons, le point de vue de la Terre ou du vivant, l'œil n'est pas la seule solution que la vie a trouvée pour créer des mondes. Donc déjà, effectivement, dans le terme perspectif, il y a un théoricocentrisme, un théocentrisme au sens de la théo, ça veut dire aussi le théâtre, c'est la vision qu'on voit. Donc il y a effectivement une réduction, et ça, il y a une deuxième, et on pourra même les multiplier. Leibniz déjà le disait, bon, c'est très bien la perspective, ça m'a bien aidé, la géométrie, tout ça, mais quand même, c'est trop spatial. Et or, on vit dans le temps. Et la perspective, elle annule complètement toute temporalité. Donc on a déjà un oculocentrisme, qui est très propre d'ailleurs aux hommes de la Renaissance. Alberti, son symbole de famille, c'est un œil avec des ailes. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. C'est le regard occidental qui domine. Donc là, on est prisonnier encore de ce lexique, même quand on parle de perspectivisme. Et la deuxième limite essentielle, c'est le temps. C'est-à-dire que, bien sûr, la perspective au sens temporel, Deleuze en parle un peu dans Cinéma 2, le cinéma a créé des perspectives temporelles. Mais bon, c'est un usage qui est contestable. Enfin, je veux dire, pourquoi parler de perspective, quoi ? Est-ce que c'est vraiment... Alors, la solution que j'apporte à ce problème, c'est de dire qu'au fond, la perspective se détache de son histoire, dès le début d'ailleurs, dès le XVe siècle. Elle se détache de son histoire optique pour devenir... une fabulation du monde, avec les limites que ça implique, c'est-à-dire le perspectivisme, c'est-à-dire, bah oui, c'est notre manière de fabuler à nous. Et ça marche très bien quand Vivores de Castro l'utilise, parce que ça fait mouche. Je pense que ça fait beaucoup plus mouche chez les Occidentaux que chez les Amérindiens, de parler de perspective. À nous, ça nous parle, parce que, bah oui, on a fabulé le monde comme ça depuis 5 siècles. Donc quand on nous dit, regardez, on peut le fabuler autrement, en appliquant la perspective autrement, ce que tu disais sur le corps, sur les Amérindiens, ah bah là, on se dit, waouh, c'est une bouffée d'air frais, quoi. On se dit, ah ouais, enfin, on peut faire autre chose. Mais on reste prisonnier de notre langage. Hein, c'est perspectivisme au sens de Nietzsche, là, le premier. C'est-à-dire on est enfermé dans les toilettes quand même. Hein. Mais on peut essayer d'élargir les murs. Quoi. Voilà.
Je voudrais compléter ma question par
Rama.
Une
réponse.
par une réflexion.
Ah. Merci.
Allez-y.
Pardon. Okay. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Et puis, je me demandais si, par exemple, on peut éventuellement, dans cette optique, parler un petit peu des auteurs plus contemporains, par exemple, autour du réalisme spéculatif, qui ont quand même beaucoup traité cette question. Et puis, je pense, par exemple, à Ian Bogos, par exemple, qui a parlé beaucoup du point de vue et comment en sortir, et a conclut en disant que non, en fait, on ne peut pas en sortir, mais qui, de façon assez intéressante, ne prend pas appui tellement sur Nietzsche, mais plutôt sur une sorte d'anti-kantisme. Voilà, et puis donc il y a beaucoup d'autres tentatives de sortir la perspective parmi ces philosophes sur la réalisme spéculatif. Donc je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui sera considéré dans cette thèse ou...
Ah, ça, je ne peux pas trop m'avancer. Mais par contre, sur l'anti-kantisme, on est en plein dedans. D'ailleurs, juste, je me permets une dernière petit développement. L'interprétation majoritaire de la perspective en histoire de l'art, c'est celle de Panofsky, hein, qui aujourd'hui est totalement contestée parce qu'elle est anachronique. C'est-à-dire qu'il met au XVe siècle ce qu'on a fait au XVIIe, c'est-à-dire la géométrisation de la nature, etc. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il a inversé. Enfin, il faudrait renverser Panofsky en montrant qu'en fait, Kant naturalise, humanise ce que les peintres ont fait. Les peintres, ils avaient des soucis qui étaient tout à fait différents. Ils voulaient s'affirmer socialement, ils voulaient créer une nouvelle culture, etc. Donc la perspective, c'était un outil d'émancipation mathématique extraordinaire. Et ça a petit à petit informé notre regard. Hein, ça a cultivé notre regard, ça l'a informé, jusqu'à ce que des philosophes expliquent que c'est comme ça qu'on voit, en fait. C'est comme ça que dans notre esprit, ça se passe. On a des petits tableaux, on schématise, exactement comme le peintre va schématiser en augmentant, diminuant la proportion des objets, etc. Sauf que, après, c'est facile du coup de dire, les perspectivistes au XVe siècle, ils font du Kant sans le savoir. Sauf que c'est Kant qui fait du tableau perspectif, en quelque sorte, sans le savoir. Puisque Kant est l'aboutissement de la naturalisation, de l'hominisation, si j'ose dire, enfin de l'humanisation du regard perspectif, qui, d'ailleurs, c'est très drôle, mais qui est un regard colonial, puisque quand les Occidentaux vont arriver en Chine, en Inde, ils vont ouvrir des écoles d'art, et la première chose qu'ils vont faire, c'est apprendre à peindre en perspective. Alors que les peintres chinois ont d'autres problèmes. Et alors, ils vont l'utiliser, les Chinois, en retour, ils vont la transformer, ils vont l'adapter, mais voilà, c'est bien pour dire que c'est notre manière à nous de fabuler l'espace, fabuler les choses, fabuler les âmes. Et je crois qu'il y a quand même, c'est une question ouverte, on peut sortir de Kant dans la mesure où on pourrait peut-être s'en servir comme un instrument pour fabuler autrement. Et je crois que c'est la question aujourd'hui, parce que même l'anthropocène, c'est encore un dernier vestige, puisqu'on arrive à se hisser au statut d'époque géologique. Bon, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la Terre, ça la fasse pas un peu rire, que ces petits parasites. Nietzsche disait, les hommes sont la maladie de peau de la Terre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment prétendre à cette... après, il y a d'autres problèmes sur l'anthropocène, mais voilà. Sortir de Kant, ça pourrait utiliser son langage pour fabuler, et c'est exactement ce que fait Nietzsche. Fabuler, composer, multiplier, varier... en partant du principe qu'on ne peut faire que ça, que penser, c'est faire ça. Alors, le réalisme spéculatif, c'est intéressant, puisque chez Miyasu, moi je connais mieux Miyasu, les autres, je ne connais pas très bien, c'est cette volonté justement de sortir de Kant en revenant un peu en arrière, c'est-à-dire en reprenant la distinction lockéenne, cartésienne, de qualité première, mouvement, masse, ligne, et qualité seconde, subjective, d'accord ? Mais ça, j'aurais aimé avoir le temps de vous le développer, mais je peux démontrer, j'ai les moyens. Oui, je termine là-dessus, j'ai une dernière phrase. Je peux démontrer que Descartes se sert du tableau perspectif pour distinguer le monde de cette façon. C'est-à-dire que c'est une fable du monde. Et que Miyasu, il nous vend quelque chose qui est un non-récit, le réel, alors qu'en fait, c'est juste un récit de plus. C'est un récit cartésien du monde, dans lequel nous nous trouvons, évidemment, comme ça, perdus. On est dans l'ancestral, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc vraiment, on retombe dans le récit, et c'est ça le sens de la perspective.